Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord vous accueillir, vous dire à quel point nous sommes heureux de vous voir sous cette coupole. J'accueille avec beaucoup de chaleur et d'amitié le président du département de Seine-Maritime, Bertrand Bélanger. J'accueille avec la même chaleur Catherine Morin-Desailly. Nous connaissons depuis si longtemps, madame la sénatrice. J'accueille évidemment les membres de l'Institut, mes confrères qui sont ici, notamment ceux qui vont s'exprimer. Je vais y revenir. Et enfin, les professeurs, les intellectuels, les savants qui vont venir tout à l'heure participer à nos échanges et qui ont fait beaucoup pour que cette année consacrée à Flaubert soit active, riche. Bref, mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus à l'Institut de France. Sans doute êtes-vous venus de Normandie, belle région certes, ou d'autres endroits, peu importe. L'essentiel, c'est que nous soyons tous réunis par l'intérêt que nous portons tous à l'un des plus grands écrivains de la langue française. Pour la commémoration du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, qui, comme chacun sait, était né le 12 décembre 1821, nous sommes assez ponctuels, il n'y a rien à dire, l'Institut a fait en sorte que tout soit symbolique, mais aussi solennel. Et ce que nous avons souhaité aujourd'hui, c'est enfin, avec 150 ans de retard, accueillir Flaubert sous la coupole. Et oui, cher Gustave Flaubert, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse pour vous dire quel est l'honneur que je ressens de vous accueillir enfin sous la coupole. Pourtant, vous n'y fûtes point reçu, comme nous disons, puisque vous n'avez été membre d'aucune de ces académies, ni même candidat à aucune élection. Je dois dire aussi que vous n'avez pas tellement épargné l'Académie française, ni l'Institut. Prenons le dictionnaire des idées reçues à la lettre I de ce catalogue des opinions chiques. Ne dit-on pas, l'Institut de France, les membres de l'Institut sont tous des vieillards et ils portent des abat-jour en taffetas vert. Aussi ai-je mis une veste bleue. Bon, nous sommes habitués. Mais je le rappelle, il s'agit d'ailleurs d'une idée reçue, il ne s'agit pas, je l'espère, d'une idée personnelle, d'une opinion propre à Flaubert. Et puis nous n'avons aucune raison de nous montrer trop rancuniers. Pas davantage, pourtant, lorsque nous portons à la lettre A de votre dictionnaire posthume, Académie française l'a dénigrée, mais tâchez d'en faire partie si l'on peut. Comment vous reprocher d'avoir formulé cette vérité aussi intemporelle, pour ne pas dire aussi immortelle ? Et vous-même n'avez pas manqué, d'ailleurs, d'ajouter du dénigrement académique dans votre correspondance. Vous m'excuserez de la révéler, d'autant que, par une curieuse ironie de l'histoire, votre correspondance est conservée ici même, dans les manuscrits de la bibliothèque de l'Institut, à quelques mètres de l'endroit où nous nous trouvons. Dans une lettre à Louis Collet du 31 mars 1853, vous disiez « Je ne veux pas plus être membre d'une revue, d'une société, d'un cercle ou d'une académie que je ne veux être conseiller municipal ou officier de la garde nationale. » Bien des amis, Taine, Daudet, la princesse Mathilde, vous ont incité à vous présenter à l'Académie française. Et vous répondiez toujours, « Tout cela n'est pas fait pour moi, chacun son tempérament. » Et même Victor Hugo, le père Hugo, comme vous l'appeliez, après avoir lu Salambo, vous écrit une lettre magnifique en décembre 1862. Voici ce que dit Hugo. « Si l'Institut de France était la grande institution qu'a voulu faire la Convention, cette année même, vous entreriez, portes ouvertes à deux battants, dans l'Académie française et dans l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Car vous avez ressuscité un monde évanoui, et à cette résurrection surprenante, vous avez mêlé un drame poignant. Toutes les fois que je rencontre dans un écrivain le double sentiment du réel que montre la vie et de l'idéal que fait voir l'âme, je suis ému, je suis heureux et j'applaudis. » Et bien même au père Hugo, vous avez résisté, et ses applaudissements et ses invitations vous en laissez de marbre. Vous n'avez jamais voulu, selon la formule bien connue, céder à la pression de vos amis. Jamais vous n'avez envoyé au secrétaire perpétuel de l'époque votre lettre manuscrite de candidature. Au demeurant, je vous rassure, cher Gustave Flaubert, quand bien même l'auriez-vous souhaité, vous auriez eu peu de chance de vous faire élire. Car à cette époque, outre les billevesées dont vous assassinez l'Académie, vous paraissiez essentiellement, pour ce que vous êtes, un romancier. Et à cette époque-là, les romanciers n'étaient guère à l'honneur à l'Académie. Hugo Ischigea, certes, mais pas du tout comme romancier, comme poète, comme dramaturge, comme orateur politique. Il en fut de même pour les deux Alfred, Vigny et Musset. Mais aujourd'hui, Gustave Flaubert, vous rejoignez ici les nombreux écrivains devenus immortels, si j'ose dire, à titre posthume. Ils se sont construits eux-mêmes leur propre immortalité et l'opinion publique ne cesse de la leur confirmer. Aujourd'hui, vous entrez sous la coupole par la voix de ceux qui vous admirent et qui vous connaissent. Ils parleront après moi, en premier lieu mon confrère et vieil ami, le professeur Pierre Brunel, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, puis des professeurs Yvan Leclerc, qui va pouvoir se reposer l'an prochain, monsieur Leclerc, un peu, j'espère pour lui, Gisèle Cessinger, Anne Herbèche-Pierrot, je les remercie, je les salue, et je suis très heureux qu'elles aient pu être présentes ce soir parmi nous. Et vous allez entrer sous la coupole aussi accompagnée par des comédiens. Je remercie Clémence Bouet et Clément Hervieux-Léger, sociétaires de la Comédie française, de leur participation, puisqu'ils vont lire tout à l'heure quelques passages de vos romans en écho avec des extraits de votre correspondance. Pour la plupart, les lettres que nous allons entendre sont, comme je l'ai dit, conservées ici même à la bibliothèque de l'Institut, mais le public peut les consulter facilement grâce au site extraordinaire de l'Université de Rouen. Vos œuvres romanesques ont inspiré tant d'œuvres musicales que cet hommage ne pouvait pas se faire non plus en musique. Le pianiste Philippe Davenet a choisi plusieurs œuvres et les jouera tout à l'heure. Je lui adresse d'emblée mes compliments et remerciements. Mais en fait, Gustave Flaubert, peut-être l'avez-vous oublié, vous avez été reçu sous cette coupole. De manière fictive, certes, sous la forme littéraire d'un pastiche, lorsque dans les années 1930, Paul Rebout publia dans une collection Réception posthume un discours prononcé à l'Académie française par M. Désiré Nisard pour la réception de M. Gustave Flaubert, succédant à Mgr Dupanloup. Tout le monde connaît Rebout et Müller à la manière d'eux, y compris les traductions de Mallarmé, vous vous en souvenez, le vaticinant erratique au larynx des Daléens, traduit par le poète qui se trompe et qui dit n'importe quoi. N'est-ce pas, cependant, aujourd'hui, l'occasion de lire quelques extraits de la prose irrévérencieuse, mais assez amusante, de Rebout. C'est donc Désiré Nisard qui, sous cette coupole, s'adresse à vous, Gustave Flaubert. Et par la pensée, nous vous voyons ici en habit vert. Je cite. « Plus d'un titre vous désignez, monsieur, pour remplir le siège où mes yeux ne pouvaient se consoler de contempler avec une attention soutenue, le vide fait par le départ de votre illustre prédécesseur. Son départ a donné l'impression d'une sécheresse soudaine, et cette sécheresse fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Il fallait le remplacer avec la promptitude dont sont capables les membres de cette illustre compagnie. Un an a passé, et vous voilà des nôtres. Oui, plus d'un titre vous appelait à ce fauteuil. Dira-t-on, monsieur, que vous avez dangereusement placé dans Madame Bovary, sous le regard des lectrices futures, le tableau a posteriori de certaines ardeurs périlleuses ? Je répondrai non. Tacite et Juvénal eurent, au fil de la plume, de pareilles audaces. Ces païens, que n'éclairait pas encore la lumière de la foi, ont élevé à la vertu en décrivant le vice, le plus durable monument. Eh bien, tout de même que ces deux illustres devanciers, vous avez donné de la morale la plus élevée et la plus grande et efficace leçon. et j'entends l'ombre de Monseigneur Dupont-Loup vous dire de sa voix vibrante en faisant rouler les airs, asseyez-vous là. Laissons là le pastiche de Paul Reboux, car heureusement les académies sont maintenant passées à d'autres idées et savent qu'il n'y a ni beau ni vilain sujet et que le style peut être une manière absolue de voir les choses. Je ne vous dirai donc pas, Gustave Flaubert, asseyez-vous là, même pas en roulant les airs, car je ne saurais quel fauteuil vous indiquer sous cette coupole, peut-être le 41e, qui par définition ne s'y trouve pas, mais qui a fait couler beaucoup d'encre. Je ne vous dirai pas non plus d'une voix solennelle et vibrante, « Entre ici, Gustave Flaubert !» Non, car cette coupole de l'Institut n'est pas le Panthéon. D'ailleurs, cette distinction est bien plus qu'une simple nuance, ou même qu'un effet oratoire. Je voudrais en dire un mot, car ce mot permettra peut-être de saisir le sens de notre présence ici cet après-midi. Au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, la République, sur la décision de son président, honore les grands hommes et les grandes dames de l'histoire de France. Cette forme d'hommage solennel et consensuel est pleinement légitime, il est évidemment nécessaire. Sur les bords de la Seine, plus bas, Quai Conti, notre coupole est-elle aussi un lieu où le passé et le présent se rencontrent ? L'assistance réunie en ce jour le prouve suffisamment. Mais notre rapport avec la mémoire n'est pas le même que celui du Panthéon. Le Panthéon et l'Institut sont complémentaires. Et je dirais que la mémoire nationale a besoin des deux coupoles, là-haut, la glorification et le panégyrique. Ici aussi, bien sûr, nous allons faire retentir des tithyrambes, nous savons mettre en œuvre des rites républicains. Mais lorsqu'un sujet historique ou mémoriel est abordé sous la coupole, je l'ai d'ailleurs dit en ces mêmes lieux le 5 mai dernier, en accueillant le président de la République pour la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, c'est le savoir qui prime sur l'éloge. Ici, point d'histoire officielle, univoque, édifiante, mais ouverture à la connaissance, à la critique, à la diversité des points de vue, à la variété des opinions, du moment que toutes restent fondées sur le savoir et non sur le préjugé et l'idéologie. Car la mémoire doit se nourrir de l'histoire dans toute sa rigueur et sa complexité. Sans doute, le Panthéon est-il un temple, la coupole est un forum. Tel est l'esprit dans lequel France Mémoire, le service que j'ai créé pour assumer la mission des commémorations nationales, désormais confiée à l'Institut de France, sous l'autorité d'Yves Brulé, ici présent, que je remercie pour son activité incessante, agit depuis un an et agira dans l'avenir. Commémorer, c'est faire mémoire des événements les plus marquants du passé, qu'ils soient heureux ou malheureux, qu'ils unissent ou qu'ils divisent. Mais à chaque génération, les voix du passé résonnent différemment dans une polyphonie toujours renouvelée. C'est devant cette polyphonie que je vais m'effacer à présent. Je dois dire que cette séance est une nouveauté. Nous n'avons pas voulu organiser une séance académique de plus, une séance classique, nous en faisons beaucoup. Cette coupole en a connu beaucoup et depuis longtemps. Dans notre volonté de concevoir des nouvelles manières de commémorer, nous avons voulu donner la parole aux spécialistes de littérature, puis aux artisans du bicentenaire Flaubert 21, et à celles et ceux qui, avec tout leur talent, feront entendre sous la coupole la prose de l'écrivain. Ce programme original, personnel, spécial, nouveau, insolite, c'est notre manière de vous dire enfin, cher Gustave Flaubert, soyez enfin le bienvenu à l'Institut de France.